Donc moi je vais vous parler d'une œuvre de Marc-André Talbavy qui s'appelle Diadème. Et alors on va souligner la logique, la programmation de cette matinée, parce qu'on est parti d'une pièce de 2009, on est fin des années, première décennie 2000. Ensuite Alain nous a parlé du plaisir des 90, et moi je vais remonter encore plus dans le temps, faire une espèce de flashback dans les pièces électroacoustiques, les pièces avec électronique. Donc on va voir un peu les problèmes que ça soulève d'aller de plus en plus vers le passé. Et avec des temporalités qui finalement sont assez étonnantes dès qu'on touche à la technologie. Et en même temps, dans ce que Max a présenté au début, on voit que déjà pour des pièces assez récentes, comme la série des traces, il se pose déjà des problèmes qui sont liés à l'évolution de la technologie, qui sont des problèmes déjà difficiles. Et donc, bon, en remontant plus de 25 ans en arrière, on va avoir aussi l'autre nature de problèmes, mais en fait c'est peut-être un peu les mêmes problèmes qu'on va résoudre de façon différente, mais chaque époque de l'informatique musicale pose aussi des problèmes spécifiques. Donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc la présentation de Diadème et du projet de sa restauration, appelez ça la restauration d'œuvres. D'abord, je vais situer ce sujet dans le cadre de cette journée d'études, c'est-à-dire dans le cadre du projet Astrée, je pense, hein, principalement, et également dans le rôle actif des réalisateurs d'informatique musicale. Je pense que c'est les réalisateurs d'informatique musicale qui ont un rôle essentiel et central dans la réalisation, évidemment, ça c'est une évidence, mais aussi, et de plus en plus, hein, logiquement, dans la documentation et la préservation des musiques électroniques, qui est le thème de ce projet. Donc si on lit le projet Astrée, il dit « La question de la préservation des œuvres artistiques faisant appel aux technologies numériques est d'une grande actualité. Si on y prend garde, une partie importante de ce répertoire risque tout simplement de disparaître, tant les technologies sur lesquelles elles se fondent sont volatiles, les dispositifs matériels, les logiciels et les langages de programmation évoluent en effet très rapidement, de sorte que le dispositif d'une pièce musicale doit être constamment adapté à ces évolutions pour pouvoir continuer à fonctionner. Ainsi, il n'est pas rare de voir, au bout de seulement quelques années, la réalisation de portages ou de migration du dispositif numérique temps réel pour l'adapter à un environnement devenu incapable de supporter et de faire fonctionner le dispositif original. » Alors, la question de portage ou de migration, bon, c'est exactement ce que je vais décrire là. Mais, par contre, je vais peut-être un petit peu mettre en parenthèse la question des traitements temps réel, même si on va les évoquer un petit peu dans le cadre de cette pièce-là. Parce que Marc-André Talbavy, peut-être, n'était pas non plus, à l'époque, un compositeur qui se disait attiré par le temps réel, pour différentes raisons esthétiques et idéologiques. Et pourtant, le portage de cette pièce soulève des questions sur la préservation du temps réel, évidemment. Ça, c'est évident. Donc voilà, bon, pour le cadre dans le projet Astrée, on est vraiment, dans le cœur du sujet. Alors maintenant, l'autre question, c'est le rôle des réalisateurs en informatique musicale, comme Max, comme Christophe, je pense, qui va venir cet après-midi aussi. Donc c'est un métier qui a émergé depuis, un peu avec l'IRCAM, hein, qui a émergé depuis une bonne trentaine d'années. Au début, c'était tuteur, après c'était assistant musical, maintenant c'est réalisateur en informatique musicale. Jusqu'au prochain nom, peut-être. Donc c'est un métier émergent. Moi, je le pratique depuis 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, vu l'évolution de ce métier, l'émergence du métier. Et le rôle de ce que je vais appeler restaurateur, c'est un peu la chose que tu n'arrivais pas à nommer tout à l'heure. C'est quelque chose aussi qui émerge, mais c'est normal parce que le répertoire est aussi énorme. Donc, c'est un métier qui a aussi plusieurs facettes, dont celle-là de restaurateur, mais bon, ce qu'on doit faire en tant que réalisateur en informatique musicale, à l'IRCAM ou pas à l'IRCAM, au Gram ou en freelance, d'abord, il y a une notion de veille technologique, c'est-à-dire qu'il faut se tenir au courant de l'évolution des technologies, parce que sinon, ben, on ne tient pas le coup, parce que ça évolue très vite, il faut connaître l'invention du logiciel. Et avant la création d'une œuvre, il y a aussi la question de la conception en collaboration avec le compositeur, c'est qu'avant que l'œuvre soit même vraiment... que la composition soit même commencée, on peut avoir des discussions avec le compositeur sur comment est-ce qu'on va réaliser le projet. Ensuite, pendant la composition, avec le compositeur ou sans le compositeur, on va collaborer avec lui. Et puis c'est peut-être le moment où, comme tu disais, on va essayer de comprendre sa poétique, de traduire ses intentions dans des choses technologiques. Exactement ce que tu as montré, c'est-à-dire il arrive, il dit « je veux un son énorme » et derrière, toi, tu fais un patch max. Mais ça peut aller dans les deux sens, hein. Ça peut être aussi ce que tu disais tout à l'heure avec les jeunes compositeurs qui parfois en savent plus que nous sur certaines choses, c'est eux qui vont nous apprendre des choses. Donc ben, y a la partie interprétation à proprement parler qui est jouer la pièce pendant le concert, pendant l'exécution, et là c'est aussi vraiment une partie de interprétation. Et puis il y a tout ce qui est le service après-vente des œuvres, donc la documentation dont tu parlais, qui est extrêmement importante, et je pense que c'est un vrai problème. Et si dans des logiques de production on ne trouve pas le temps de faire de la documentation, il y a un vrai problème, c'est qu'il faut vraiment arriver à faire passer ça et trouver du temps pour faire de la documentation. Écrire des choses sur les pièces qu'on a réalisées. Et l'activité, donc c'est là qu'on trouve l'activité de portage ou de réinterprétation. Donc là, j'ai mis une illustration où on voit le passage à l'IRCAM. À un moment, on est passé entre les stations de travail et puis des SGI. Là, je les ai photographiées avant qu'elles partent aux oubliettes. Mais bon, on voit... Bon, et c'est inévitable, hein. On voit toutes ces générations. Et évidemment, les pièces, ben, il va falloir les faire passer, les faire migrer d'un système à l'autre. Et bon, si j'ai mis cette image-là, c'est parce que j'ai dû passer à un moment où on est passé des Next au SGI et au Macintosh, et j'ai passé peut-être une année à faire que ça, à faire que du portage d'un système vers l'autre. Donc ça, c'était pour montrer que c'est une activité parmi d'autres de la réalisation d'informatique musicale. Mais c'est une activité qui émerge de plus en plus. Ben pourquoi ? Parce qu'il y a le répertoire qui, un peu mécaniquement, se augmente avec le temps. Donc il faut gérer d'une certaine façon. Alors maintenant, on va passer à une étude d'un cas particulier. Donc c'est le sujet de cette présentation. C'est une œuvre de Marc-André Dalbavy qui a été réalisé dans le milieu des années 80 à l'IRCAM et qui a été créé en juin 86 au centre Pompidou avec l'ensemble Itinéraire dirigé par Arturo Tamayo en 86. Ensuite elle a été jouée pour l'avant-dernière fois, donc la création 86. Et ensuite, elle a été jouée pour l'avant-dernière fois, en 92, à l'occasion de l'enregistrement d'un CD qui est sorti en 96. Mais donc, l'avant-dernière interprétation, c'était 92, donc ça fait déjà longtemps. Alors, pour se rappeler un petit peu cette pièce... l'avant-dernière version en 92, le CD en 96, et puis... en 2008, il y a un organisateur de concert qui a dit on aimerait bien le rejouer. Et là, il y a eu quand même un pas mal de temps qui s'est passé entre les deux, et il a fallu donc faire un portage de la partie technologique, et c'est ça que je vais décrire aujourd'hui, un peu en détail. Donc ici, on voit juste le dispositif technologique original de la pièce, tel qu'on le retrouve dans les documentations de l'époque. Donc il y avait deux claviers qui jouaient des sons de synthèse sur des TX-816. Et il y avait l'alto solo, c'est une sorte de concerto pour alto, qui est transformé dans des effets Yamaha. Et je reviendrai là-dessus en détail. Donc je parlais de l'enregistrement. Donc il y a ce CD qui est sorti en 96, dirigé par Pierre Boulez, avec Seuil, une pièce un peu postérieure que d'Albavie a réalisée à l'IRCAM. Et donc, juste pour se rappeler un peu l'œuvre, je vais écouter un extrait du CD. Oups. Donc on a au moins un enregistrement, c'est déjà quelque chose, un enregistrement qui est sorti dans le commerce avec la bénédiction du compositeur, quelque chose qui est travaillé en studio. Donc c'est quand même déjà, on a au moins ça comme source de travail. Donc la diadème a eu le prix Ars Electronica en 87 en raison de, si on lit le prix, « The integration of traditional instruments with digitally generated sound ». c'est-à-dire l'intégration des instruments traditionnels avec des sons générés numériquement. Donc, à l'époque, c'était quand même pas si courant que ça, donc c'est un prix important. Alors aussi, signaler que Diadème a été créé lors du colloque Système Personnel, qui s'est tenu à l'IRCAM en 86. Alors à l'époque, on désignait par Système Personnel toutes les nouvelles machines permettant de mettre à la portée du grand public les dispositifs de synthèse et de traitement sonore, jusqu'alors réservés aux institutions. Yamaha, avec ses synthétiseurs DX7, les modules de réverbération, les processeurs d'effets, était l'un des principaux fabricants de ces systèmes personnels. À cette époque, je m'en souviens même, je suis arrivé un peu après, mais ça existait toujours, il y avait un studio équipé spécifiquement par Yamaha, donc c'était le studio Yamaha, dans lequel Yamaha avait donné plein de synthés et de processeurs d'effets qu'on a toujours, et ils avaient donné dans le but de développer, enfin qu'on développe des presets, des traitements, des sons avec, et puis aussi peut-être pour que ça se diffuse par l'intermédiaire du studio de l'IRCAM. Donc ce qui explique aussi le fait qu'on va retrouver dans le dispositif de cette pièce beaucoup de modules de synthèse et d'effets Yamaha, exclusivement même en fait. Alors, suite à la demande d'un organisateur de concert américain et de l'éditeur, alors là on va revenir un peu sur le rapport avec les éditeurs, mais dans ce cas-là c'est les éditions Lemoine. Et c'est eux qui ont fait le lien entre l'organisateur de concert et l'IRCAM. Donc ils ont fait la demande enfin il y avait un projet de création américaine de cette pièce en décembre 2008 dans le cadre d'un concert monographique. Donc un concert d'œuvre de Marc-André Damavi, et ils ont voulu rejouer cette pièce. Donc à la suite de cette demande, j'ai recensé les problèmes posés, enfin on s'est rendu compte des problèmes posés par l'exécution en concert de la partie technologique de cette œuvre, âgée de 23 ans, mais aussi qui explique pourquoi elle n'a pas été rejouée depuis 80. Enfin, c'est des raisons techniques qui ont fait que cette pièce n'avait pas été rejouée pendant aussi longtemps. Donc, en tant que réalisateur en informatique musicale, j'ai étudié avec un certain nombre de chercheurs de l'IRCAM participant au projet CASPAR, dont Jérôme et Alain, les mesures à envisager pour la mise à jour de cette pièce. Et puis j'ai ensuite réalisé une nouvelle version. Et en faisant ça, j'ai également tenté de réaliser une sauvegarde des éléments constitutifs de la pièce en vue d'en faciliter des réalisations ultérieures. Alors je voudrais revenir sur l'implication de l'éditeur dans ce domaine, qui est... qu'il faut remarquer quand même, c'est une application qui est relativement récente. Avant, ils ne se préoccupaient pas tellement de la partie technologique des pièces, mais maintenant, par la force des choses, ils sont un peu obligés de le faire. Et cette application montre une prise de conscience des éditeurs dans l'importance de la préservation des parties électroacoustiques dans l'exploitation de leur répertoire, parce que des éditeurs qui ont à leur catalogue des compositeurs de musique contemporaine qui utilisent des moyens électroacoustiques, c'est-à-dire quand même beaucoup de compositeurs, ils sont bien être obligés de gérer cette partie-là.
Il y a déjà des cas de rimes qui ont été embauchées par des éditeurs pour faire ce travail-là?
Non, ça passe, enfin en tout cas en ce qui me concerne, ça passe toujours par l'IRCAM, parce que c'est comme c'est des pièces IRCAM, et qu'il y a quand même, il y a quand même un accord tacite pour certains éditeurs, et écrit pour d'autres, comme les éditions Durand, pour qu'elle fasse quelque certaine façon sous-traiter ça. Donc oui, il y a indirectement.
Le cas de Lemoine, c'est bien cité, mais c'était le cas pour Chouy. C'est moi qui ai fait toute la donne de toutes les pièces que Chouy a créées.
D'accord. Tu as été embauché par Lemoine?
Non, là, c'est par le Gramme.
Il y a un intermédiaire.
Il y a un intermédiaire, c'est le Gramme qui a négocié ça, mais parce que le Gramme, je pense, dans le contrat dès le début, avec Chouy, enfin, dans l'idée de la résidence, c'est que Gramme garde, et je pense que bien comme c'est pareil, la réalisation technologique et le suivi des œuvres dans le temps après. C'est aussi une façon, je pense que si les gens veulent reprendre, on s'adressera aussi assez facilement à l'IRCAM pour dire tous les outils. En tout cas, ce qui nous concerne, c'est ça, c'est que si la pièce est reprise, ça passe par le gramme.
Mais il y a peut-être des cas, je voudrais demander à, justement à Christophe, peut-être qu'il y a des cas où c'est passé par les gens, mais en tout cas, je pense aussi à, aux éditions de, des pièces de Pierre Boulez, où, ben voilà.
On parle du loup,
où je crois qu'il y a eu quelque chose entre Andrew Guerzo et Édition Universale pour une certaine partie de documentation qui est publiée avec, avec l'œuvre. Donc ça peut se trouver. Ouais. Ça peut se
trouver. On peut imaginer qu'à terme, il y a des emplois permanents dans des grosses maisons d'édition.
Il faudrait qu'ils évoluent encore un petit peu. Ouais, mais ça peut arriver. Hein.
Ouais, on peut imaginer que dans le futur, c'est quand même ce qui va se passer.
Comment ça se passe après ? Parce que les maisons, alors, peut-être une parenthèse, une grande parenthèse dans la problématique de la préservation, mais les maisons d'édition, en général, quand il y a du matériel pour ensemble ou orchestre, elles le donnent en location. Oui. Et là, comment ça se passe pour le matériel logiciel, en quelque sorte ?
Alors, pendant une époque, justement, on fournissait, enfin, pour les pièces circulaires, on fournissait aux éditeurs un CD, avec le patch, tout ce qu'il fallait pour la pièce. On s'est rendu compte très vite que ça ne marchait pas comme modèle, parce que au moment où quelqu'un demande le CD avec la partition, c'est déjà trop tard. Donc il fallait refournir CD, donc ça, on a abandonné ça. Mais à un moment, on aurait pu y croire. Enfin, on évalue assez mal les temporalités vers le futur. A posteriori, on se dit que ce n'était pas une bonne idée, mais à un moment, on s'est dit que c'est peut-être la bonne solution. Et donc maintenant, en fait, quand il y a une demande qui arrive chez Durand, en tout cas, ça je le sais, automatiquement, il rebascule vers la production de l'IRCAM qui donne directement à l'organisateur de concert, sans repasser par la case éditeur pour éviter de perdre du temps, mais ça se passe comme ça. Mais je sais pas, enfin, moi je suis pas non plus... directeur de la production, donc je ne sais pas comment ça se passe pour tous les éditeurs. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de compositeurs qui sont leurs propres éditeurs. Et pour des jeunes compositeurs qui vont gérer ça eux-mêmes.
Oui, pour le faire en direct, ils vont venir avec le patch, le voilà. Programme, voilà. L'ordinateur qui va jouer. Parce qu'il n'y a pas simplement le patch.
Mais la question derrière ça, c'est aussi l'avenir de l'édition musicale de la musique contemporaine. Ça, ce n'est pas non plus... La situation n'est pas très. C'est pas très brillant. Enfin, c'est...
Ouais, ça fait partie des choses critiques pour la diffusion.
Mais on ne sait pas, il n'y a pas de visibilité parce qu'on a l'impression que les grands éditeurs, de toute façon, ça devient des grands consortiums. Économiquement, c'est plus intéressant. Mais par contre, il y a toujours des petits éditeurs qui ressurgissent, qui n'ont pas une durée de vie très longue. Mais bon, on ne sait pas. Hein. C'est difficile. Donc bon, pour cette notion, non, c'est important, je pense. Donc les œuvres, c'est un point sur lequel justement tous les projets comme Caspar ou Astré insistent, et que toutes les œuvres électroacoustiques avec du temps réel ou des dispositifs électroacoustiques ont comme particularité d'être dépendantes, fortement dépendantes des conditions matérielles d'exécution, c'est-à-dire de l'ensemble des systèmes électroniques ou informatiques nécessaires à leur exécution. Par exemple, donc, pour Diadème d'Albavi, se pose concrètement et cruellement le problème de l'obsolescence des synthétiseurs FM TX-816 qui a été utilisé initialement. La situation est assez difficile parce que bon, ils ne sont plus fabriqués depuis assez longtemps. Ceux qu'on a à l'IRCAM, ils sont vraiment en fin de course. Là, j'ai une photo, on ne voit pas très bien, mais il n'est plus en très bon état. Normalement, il y a 8 tranches. Là, il y en a une qu'on a été obligé de supprimer parce que ça ne marchait plus du tout. Donc, il n'y a plus qu'une partie qui fonctionne. Au début du projet, j'en avais trouvé 2 en état de fonctionnement. J'ai changé toutes les batteries à l'intérieur, des batteries qu'il faut ressouder. Ça marche, ça tient le coup, mais pendant le cours du projet, il y a l'alimentation générale d'un qui m'a lâché. Donc c'est vraiment la fin de leur vie. Il faut préserver ça maintenant ou jamais. Quoi. Alors, on pensait à l'époque que, alors justement, dans le cadre des systèmes personnels, il y avait un optimisme. À l'époque, on pensait que parce qu'on allait utiliser ce type de machine, eh ben, ça allait être beaucoup plus pérenne que des logiciels ad hoc, des systèmes qu'on développait spécifiquement à Vircam. À l'époque, c'était encore la 4X, pour l'époque de la 4X, enfin, la 4X, où c'était quelque chose qu'on trouvait que à Vircam. Alors, on se disait, et vraiment, quand on lit les actes du colloque système personnel, on disait, ah bah oui, bon, 4X, c'est juste IRCAM, c'est trop cher pour le grand public. Par contre, ça, ça va se diffuser et c'est la solution de l'avenir.
C'est quand même le synthétiseur qui a été le plus sauvegardé et pérennisé de le monde.
Oui.
Même encore à l'heure actuelle, mais, il y a des versions de logiciels qui sont compatibles.
Mais justement, pas tant que ça, parce que ils ont continué Yamaha ont continué à faire des synthétiseurs FM après les DX7, ils ont fait les SY, la série des SY, 77, 99, mais c'était pas la même chose et c'était pas compatible avec, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rentrer les programmes tels que. Et puis ils ont abandonné après. Hein.
Les logiciels FM, ils sont compatibles avec les programmes des DX.
Et jusqu'à un certain point, parce que justement, moi, je vais venir là-dessus, on a évolué même entre 86 et aujourd'hui le portage de ça vers des plugins FM7, FM8. Et en fait, on peut arriver à charger des programmes dedans, mais c'est pas la même chose, ça sonne pas pareil. Et, disons, les programmes d'usine sonnent à peu près pareil, mais dès qu'on va un petit peu dans les détails, ça serait une solution. C'est une solution qu'on a évaluée et qu'on a essayé de le faire. Et ça marche. Alors, d'autant plus que ça, c'était un TX816. Une tranche, c'était un DX7, en fait. Et là, il y en avait deux. Donc, il y avait quand même, c'était des machines assez, enfin, qui pouvaient faire beaucoup de polyphonie, assez. C'était un gros truc. Et dans les années 90, quand on essayait de le faire ça en émulation logicielle, les ordinateurs étaient de loin pas assez puissants pour faire autant de voix que deux TX816. On pouvait faire un DX7 ou deux, mais après, il fallait 16 ordinateurs. Enfin, ça a un peu évolué, mais je sais pas si aujourd'hui on arrivera à faire autant qu'un TX816. Quand même, c'était bon. Voir ça à une tranche, c'est un DX7. Et alors en plus, donc, il y avait deux modules qui étaient déclenchés par deux claviers dans l'orchestre. Et il y avait aussi des. On entendait peut-être dans l'exemple, pas très clair, mais c'est écrit en quart de ton, donc il y avait des programmes qui étaient désaccordés. Enfin, il y avait une machine qui était. Certains programmes désaccordés pour faire des quarts de ton. Il y a un clavier qui jouait tout un quart de ton au-dessus. Alors, pour ce qui est des transformations en temps réel, pareil, des modules SPX 1000 et des réverbérations REV5 de Yamaha. Et là, on voit, j'ai photographié. En fait, j'ai rechargé les programmes d'origine. Donc, on voit que c'était vraiment les programmes de diadème qu'on avait rechargés dans les programmes.
Et là, pour les programmes du TX816, tu as pu récupérer les dumps de MIDI.
Oui, c'est, en fait, on a réussi à recharger les programmes originaux, à condition de retrouver les modes d'emploi de la façon de dumper les programmes. Et c'est vrai que, bon, je vais revenir là-dessus, mais pour ça, j'explique pas, mais pour trouver ça, il fallait trouver une feuille de papier où quelqu'un avait écrit, passé. Le programme numéro 1 et mettre le contrôleur 7 à 127. Et si on ne le faisait pas, ça c'était pas exactement les bonnes sonorités. Et donc ça, c'est en fouillant. C'est dans les traces, certaines traces. Et on a pu le faire. Donc on a essayé, comme j'ai dit, des solutions d'émulation logicielle, mais ça n'a pas vraiment abouti. Donc la situation par rapport à l'histoire de la musique en général est quand même assez nouvelle. Toutes ces œuvres-là ne peuvent plus s'appuyer sur les paradigmes stables de ce qu'on appelle la musique classique occidentale, telle que la notation, et c'est pour ça qu'on évoquait une nouvelle organologie avec Alain. Donc ces œuvres, et donc dans le cas de Diadème, et c'est qu'un exemple, hein, on le voit bien, sont assez pénalisées en termes de diffusion, hein, parce que c'est quand même pour ça que elle a pas été, cette pièce n'a pas été rejouée. Parce qu'on a, enfin, je pense que certains organisateurs de concerts ont voulu faire, et puis devant la difficulté de trouver deux TX-816 en état de marche, deux SPX-1000, une REF-5, ils ont abandonné très vite. Mais on le sait même, hein, qu'il y a des exécutions récentes de ces œuvres, de cette œuvre, ou d'autres œuvres qui appartiennent au même, à la même époque, au même style d'œuvre, qui ont été annulées. Et donc, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a tout un pan du répertoire de la musique électronique qui est menacé, des œuvres d'une époque qui sont en péril. Et donc là, c'est vrai qu'on tombe vraiment sur un paradoxe où, à l'époque, on pensait que justement, en utilisant ce type de machine, en utilisant la technologie, on allait pouvoir faire des pièces plus faciles à jouer. Et c'est tout le contraire qui arrive.
Donc,
oui.
Excuse-moi. Et allégorie, par exemple.
Pareil.
L'exemple de l'allégorie là qu'on vient de rejouer là, la semaine dernière, ils ont eu la bonne idée de sampler tous les sons.
Ah bah attends, on y arrive.
Excuse-moi. Ça marche quoi, c'est pour te dire que connaissais la pièce au début des années 90 avec le Mac et ce et puis ces fameux TX-816.
Ah bah tu vois, c'est la solution sur laquelle on est tombé.
D'accord.
Là,
excuse-moi.
mais en fait, c'est un annonce intéressant parce qu'allégorie c'est la même époque. La même technologie, enfin il y a un TX-816. Moi je l'ai fait une fois avec des TX-816 et c'était galère. Hein. C'est intéressant parce que là je prends un cas particulier, c'est l'étude d'un cas, c'est Diadem. On va dans le détail et on l'a étudié avec l'équipe de Jérôme Alircam pour aller vraiment expliciter tout ce qu'on fait, mais c'est qu'un cas particulier d'une œuvre qui appartient à un ensemble d'œuvres qui sont proches, comme Allégorie de Murail, il y en a d'autres, des œuvres de Jarrell, Jonathan Harvey, de Hugues Dufour aussi, qui sont aussi des œuvres importantes. Hein. Maintenant, c'est des compositeurs pour tout un répertoire qu'on veut jouer aujourd'hui. Il y a des pièces de Dufour qu'on ne peut plus jouer, comme des pièces comme Saturne, par exemple. Il y a beaucoup de demandes pour le jouer, mais on ne peut pas. Donc, c'est pour dire que c'est important.
Pour rebondir sur cet exemple, on a rejoué Solar de Sariao, qui se joue avec un SY-99, on a été incapable.
Et encore, c'est plus récent.
C'est plus récent, on a été incapable d'en trouver en état de marche, c'est-à-dire que tous les programmes qui étaient sur disquette, les lecteurs disquettes sont morts. Il faut réouvrir le truc, le boîtier, et modifier le hardware, typiquement. Et du coup, Sariao a réécrit la partie du SY-99 pour second piano. C'est pour ça que maintenant, la pièce est jouée à deux pianos, plus un sampler, et le sampler. C'est Contact, qui tombe dernière, j'ai récupéré tous les échantillons, et j'ai refait un
pack. C'est la solution, hein, de toute façon.
C'est ce portage-là, mais elle a même modifié sa pièce, c'est-à-dire que c'est...
Et pourtant, SY-99, c'est les années 90, hein. Donc, je pense, les derniers synthés FM faits par Yamaha, et qui n'étaient pas forcément, pas vraiment compatibles avec les 77, alors pas du tout avec les DX.
Et dans le cas d'allégorie, puisque la partie... initial était interactif, c'est-à-dire qu'il y avait des jeux sur les dynamiques, etc. Enfin, il y avait une interprétation.
Ouais, ben bon, c'est la même chose, bon. Ça s'anticipe. Hein. Et donc, oui, comme je disais, c'est une question importante parce qu'il y a un répertoire important, les œuvres de Murail, de Dufour, et concrètement, c'est vrai qu'il ne se passe pas une semaine à l'IRCAM sans qu'on ait une demande, pas forcément des œuvres des années 80, mais d'œuvres dont on n'a pas la dernière version. Donc c'est quand même assez, c'est un problème assez sensible quand même. Donc c'est une œuvre qui s'inscrit dans un répertoire qu'il s'agit de préserver. Et donc là on a un peu anticipé sur le fait qu'on va voir comment on peut... Donc là on a fait cette étude de ce cas-là en disant bon, on choisit on fait une sorte d'échantillonnage dans les œuvres et voir comment est-ce qu'on peut généraliser ce processus de préservation à d'autres œuvres. Parce que quand on commence à le faire pour une œuvre, on va vouloir le faire pour deux œuvres, surtout si on fait le constat qu'il faut agir vite, parce que les machines, si on en trouve qui marchent encore, c'est plus pour très longtemps, quoi. Donc il y a urgence là quand même. Et donc au niveau du répertoire, au début de ce travail, on a fait, je pense avec Alain, une sorte de répertoire, et on est tombé quand même sur, j'ai noté, une soixantaine d'œuvres, hein, qui sont dans cette catégorie-là, donc c'est pas, C'est pas rien. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, il va falloir mener les actions de préservation et de pérennisation qui sont préconisées. Donc ça s'est fait dans le cadre du projet Caspar. Et donc cet exemple de diadème a été utilisé à plusieurs occasions pour explorer les problématiques, les approches méthodologiques en situation de préservation. Donc le constat qu'on a pu dresser à la fin de ce projet, c'est tout d'abord l'instabilité des supports techniques nécessaires à l'exécution des œuvres, la dépendance aux circonstances d'exécution de l'œuvre que j'ai mentionné, et la conséquence en termes musicologiques, c'est l'émergence de ce dont parlait Alain tout à l'heure, d'une nouvelle discipline, en fait, et surtout d'une nouvelle organologie pour lutterie des instruments électroniques, qui a fait l'objet d'une publication au congrès de musicologie interdisciplinaire sur peut-on envisager une organologie des instruments virtuels de l'informatique musicale en s'appuyant sur, je pense, en écho et sur cette expérience-là. Alors, maintenant, on se penche sur cette activité de portage, qui est une activité très particulière et qui est une sorte d'archéologie d'un passé très proche. Et donc, on va devoir retrouver des traces qui sont, par exemple, on a vu l'enregistrement, c'est une trace, hein, on a la chance d'avoir l'enregistrement, c'est pas le cas pour toutes les œuvres. Les instruments d'époque, les patchs d'époque, les recherches des sources, donc c'est vraiment une archéologie. Alors on va chercher des documentations qui ont été faites. Alors à l'époque, à l'IRCAM, on stockait ça sur des CD, donc c'était aussi les CD qu'on pouvait envoyer à l'éditeur. Donc on retrouve ça dans des boîtes de différentes couleurs dans lesquelles on trouve les cahiers d'exploitation, dans lesquels, sur papier, on stockait tous les éléments qu'il fallait pour rejouer les œuvres. C'était Marc Battier qui faisait ça à l'époque, assez systématiquement et de façon assez sérieuse et musicologique. Enfin, c'est des traces, des sources importantes. Des logiciels sur CD-ROM, les dumps des programmes des synthétiseurs et des effets. Donc là, il faut, bon, les sources sur papier, on arrive à les relire. Sur CD-ROM, si on a la chance de tomber sur des CD-ROM qui sont encore lisibles, maintenant on fait un travail d'archéologue de l'informatique, qui sont des compétences qu'on doit avoir aussi en tant que réalisateur en informatique musicale, hein, et on tombe sur des fichiers binaires qu'on peut lire que sur certaines plateformes, bon, faut essayer de retrouver la plateforme. Bon. Alors on c'est pas toujours couronné de succès, on peut échouer, hein, des fois on peut arriver à lire un CD qui était un peu abîmé, extraire des fichiers, puis au dernier moment se rendre compte qu'on peut rien en faire. Hein. C'est pas toujours couronné de succès, mais bon, il faut au moins chercher toutes les sources et aller un peu tous azimuts. Donc c'est vraiment un travail de recherche de sources, de traces. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on tombe sur le problème de la pérennité des supports numériques, qui sont les problèmes qu'on partage avec les archivistes en général. Parce qu'il y a eu un optimisme à un moment en disant on numérise, donc on a des archives qui sont là pour l'éternité. Et puis on se rend compte qu'au bout de 20 ans, ce qui reste, c'est le papier. Et là, voilà, c'est ce qui se passe. Là, hein. Souvent, dans des boîtes, on ouvre des boîtes, la seule chose qu'on arrive à lire, c'est du papier. Donc, c'est du papier, c'est aussi les partitions. Alors, tu disais tout à l'heure, bon, ce qui nous sert, c'est les notes du compositeur et les partitions, et ça, c'est évident pour la remise à jour de Diadème. Je pense que les choses les plus importantes, on les a trouvées dans les partitions. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, j'ai retrouvé... Alors, au départ, c'était Jobert, hein, avant d'être le moine, parce que ça a été racheté. Mais on a retrouvé des partitions originales. Et là, celle qu'on voit, elle a écrit au manuscrit « Technicien en console ». Donc, c'était la partition qui était utilisée par l'ingénieur du son pendant le concert. Et là, on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. par exemple, bon, en dessous, on voit des choses en couleur. Je parlais aussi tout à l'heure d'annotations dans la partition. Bon, ça, en plus, ça ne se photocopie pas, ça. Ce n'est pas dans la partition qui est chez l'éditeur. Le bleu, ça doit vouloir dire que c'est la REF 5, et l'autre couleur, c'est une SPX-MI. Mais cette information-là, elle était que dans la partition comme ça, coloriée, avec du crayon de couleur. Et si on n'a pas ça, c'est pas toujours facile dans l'enregistrement de retrouver ce qui avait été utilisé comme effet.
Avec un
crossfade entre les deux, dur et faux. Bon, mais ça, c'est très très important. C'est important non seulement à reprendre pour pouvoir réinterpréter l'œuvre, mais aussi à préserver. Parce que là, on l'a trouvé, on a eu de la chance de le trouver, mais ce n'est pas quelque chose qu'on aurait préservé naturellement dans la procédure de préservation habituelle. Alors, il y a aussi les parties de clavier, les parties de synthé. Donc ça, chez l'éditeur, on a demandé ce qu'il nous envoie le matériel original. Et puis là, on trouve plein d'indications qui ont été notées par les joueurs de clavier pendant l'exécution. Où ils disent, là, le changement de programme, on voit là... Dans les petits carrés, c'est les changements de programme. Et ça, on ne les trouve pas systématiquement dans le conducteur, non. Quels sons est utilisé à tel moment. Et beaucoup de choses sur la façon de jouer les sons, sur la façon de jouer avec les pédales, vraiment de jouer les sons de synthèse. Ça a été écrit au crayon à papier dans la partie des instrumentistes. Et bon, on s'est rendu compte qu'il fallait faire ça, hein, parce que sinon on perd beaucoup d'informations. Donc, cette notion d'obsolescence très rapide, de vieillissement accéléré, finalement on se rend compte que dès qu'on est dans le domaine de l'informatique, ou encore plus de l'utilisation de dispositifs électroniques grand public, eh ben, on a cette obsolescence qui parfois est même... voulu pour des raisons commerciales, et donc il faut se battre contre ça. Donc ça, c'est la première étape du processus de restauration, c'est la recherche des sources. Et une fois qu'on a les sources, qu'on les a collectées, c'est déjà, c'est pas une mince affaire, il faut les analyser, il faut essayer de trouver là-dedans où il y a l'information importante, qu'est-ce qui fait sens, donc il faut vraiment tout analyser. Donc une autre source, hein, tu disais tout à l'heure, c'est on a la chance d'avoir le compositeur vivant, donc on peut aussi l'interroger, lui demander est-ce que tu te souviens de ça. Bon, alors c'est pas forcément non plus une source très fiable, pour plusieurs raisons. Déjà, bon, il se souvient pas forcément de tout 20 ans après. Il s'en souvient pas, ou il veut pas s'en souvenir. On a eu un peu de mal à le faire venir, à lui faire répondre à nos questions, parce que bon, ça, c'était plus sa préoccupation non plus. Mais quand même, il est là et il peut nous donner des indications. Et parfois, il peut nous dire, ah oui, je me souviens, c'est telle personne qui a fait telle chose. Donc, dans notre enquête, ça peut aider quand on a le compositeur. Mais bon, on peut tomber sur des pièces de Griset, par exemple, où là, il n'y a plus le compositeur. Donc, bon, mais faut, tant qu'il est vivant, il faut l'utiliser en gardant quand même un petit peu de recul aussi par rapport à ce qu'il va nous dire, c'est qu'on va analyser les sources, on va avoir aussi un regard un peu critique. Tout à l'heure, tu parlais des notes de programme, mais il faut aussi garder un regard critique sur ce que va dire le compositeur de ses intentions et de la réalisation de ses intentions. Donc aussi, là, on parlait tout à l'heure de projets d'émulation des synthétiseurs FM. Donc il y a eu plusieurs projets, même à l'IRCAM, sur essayer d'émuler les synthétiseurs FM pour résoudre une fois pour toutes ce problème des pièces qui utilisent des synthés FM. Et donc il y a eu plusieurs projets à l'IRCAM, plusieurs réalisateurs qui ont essayé de trouver une solution logicielle d'émulation de ça, des PatchMax ou des programmes 600 ou en C qui prennent les programmes et qui sonnent pareil. Et bon, pour des raisons qu'on pourrait analyser, mais ça nous mènera un peu loin, on n'a jamais abouti à quelque chose d'exploitable, en fait. Mais ça fait partie des sources qu'on peut essayer de retrouver, hein, parce que là-dedans, il y a peut-être aussi là-dedans aussi, moi, j'ai retrouvé des informations sur les programmes utilisés, parce que c'était des travaux en cours, mais pas abouti. Donc la solution qu'on a prise, c'est celle de la virtualisation. Alors, au problème de la préservation des œuvres. Alain Bonnardi, ici présent, a identifié trois approches possibles qui sont celles de l'émulation, de la migration et de la virtualisation. Donc, je ne vais pas revenir là-dedans, là-dessus, mais celle qu'on a choisie, à la différence d'une émulation logicielle par exemple, c'est plutôt celle d'une virtualisation qui permet de reconstituer l'œuvre, qui permettrait de reconstituer l'œuvre dans le futur, quelle que soit l'évolution de la technologie. C'est-à-dire qu'on se préoccupe pas seulement de refaire l'œuvre, mais aussi de préserver tous les éléments qu'on pourrait préserver pour le refaire avec une technologie différente. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va échantillonner les sons détruits sans cesse selon une certaine procédure qui permet d'échantillonner pas seulement les sons dans le sens échantillonnage dans les hauteurs, mais aussi les différents modes de jeu, les différentes dynamiques qui sont utilisées dans la pièce. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder seulement les sons qui sont utilisés dans la pièce, pas tous les sons possibles. Ça nous emmènerait trop loin. Ça va aboutir dans la patch MaxMSP. Et même chose pour les transformations en temps réel sur l'alto. Donc on va transformer les patchs en un autre patch MaxMSP, mais en explicitant tout ce qu'on fait sous forme de fichiers son dans le cadre d'échantillonnage et sous forme de réponses impulsionnelles dans le cadre des traitements en temps réel. Donc pour passer du TX816 au patch MaxMSP, donc j'ai repris le synthétiseur avec les sons d'origine de Diadème qu'on a chargé en mémoire. Ensuite j'ai écrit une petite application qui automatiquement va lire sur tous les registres qui sont joués dans la pièce systématiquement toutes les notes qui ont été jouées avec plusieurs dynamiques et plusieurs modes de jeu en fonction de ce qui est joué dans la partition. Et tout ça, ça a été enregistré. Alors ça, je ne l'ai pas fait manuellement, hein, je l'ai fait automatiquement. Parce que manuellement, ça nous a entraîné un peu loin, mais c'est des machines, hein, donc on peut leur demander automatiquement d'enregistrer tous les sons. Et puis aujourd'hui, on n'a plus vraiment de problème de mémoire ou d'espace de stockage. On peut se permettre de stocker beaucoup de sons, donc on n'est pas trop limité là-dedans. Il y a quelques années, ça aurait pu être une limitation, mais là, on a enregistré beaucoup, beaucoup de sons séparés. Et donc ça aboutit à une liste de sons qu'on devine là, où tout est bien rangé en termes de c'est tel programme, tel son, avec telle dynamique, tel mode de jeu. Et donc tout ça, on peut le mettre dans un échantillonneur fait en MaxMSP, mais on peut le mettre aussi dans un échantillonneur du commerce, si on veut, si on a la patience. Et on peut le faire, on peut le mettre dans un échantillonneur en Pure Data, en Super Collider, en Fausse, je ne sais pas, peut-être. Enfin, c'est possible sans avoir à revenir au synthétiseur original. Donc là, j'ai surtout explicité la partie portage du synthétiseur, mais on a fait la même chose pour les traitements en temps réel. C'était plus simple parce que, en fait, dans la documentation en papier, dans la documentation de Marc Battier, ici, on trouvait tous les programmes, il avait déjà noté tous les programmes et les paramètres des harmonizers sous forme de transposition, temps de sense. Donc ça, on pouvait refaire assez facilement. Donc refaire le patch. Il est là. Refaire le patch ici, là. À partir des données déjà préservées sous forme de texte, c'est relativement faisable. Mais j'ai quand même, comme j'avais les modules originaux, j'ai quand même enregistré des réponses impulsionnelles, des réverbes, pour avoir ça en plus. Donc je ne m'appesantis pas trop là-dessus, mais on a dans la documentation papier qui va être préservée tous les éléments pour refaire le patch de transformation en temps réel. Et ce que je ne sais pas, c'est si pour le concert, ils ont utilisé le patch que je leur ai fourni ou bien ils en ont programmé un ou je leur avais laissé la possibilité. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini parce qu'il y a justement la notion d'authenticité et de validation. Donc l'étape suivante après la réalisation, c'est la question de validation. Donc en studio, dans le studio ici, là. Ici là, j'avais les modules de synthèse originaux, les deux claviers et le patch max sur le Macintosh. Donc on pouvait faire des comparaisons A-B en jouant successivement les deux pour voir où est-ce que ça se ressemblait, où est-ce que ça se ressemblait pas. Donc il faut faire ça aussi pour faire la validation auditive, comparaison programme par programme. Et bon, là on se rend compte que ça sonne pas forcément toujours pareil pour différentes raisons. Mais est-ce que c'est suffisamment proche? Donc, une fois qu'on a fait ça, en juillet 2008, on a fait venir le compositeur, on a réussi à le faire venir en studio pour lui faire valider. On lui a dit, on lui a joué les programmes, on lui a dit, est-ce que là, tu reconnais? Et là, c'était intéressant, donc avec une stagiaire, Karine Weissenbrunner, qui était une stagiaire de Berlin à l'époque, on l'a un peu, dans le cadre de cette recherche-là, on l'a un peu cuisiné aussi, on a enregistré ses réactions, et donc on a des traces aussi de ses réactions. Et c'était intéressant, parce qu'il disait, bon là, ça sonne pas tout à fait pareil, et là on peut voir l'écoute du compositeur, ça lui a rappelé des choses, et donc ça permet aussi de valider. À partir du moment où il dit, bon là, c'est suffisamment proche, il dit, bon c'est bon, on a quelque chose de... On a un processus de validation avec le compositeur qui permet d'assurer la question de l'authenticité. On ne peut pas toujours réunir ces conditions-là, hein. C'est peut-être un peu des conditions idéales. Donc après cette validation par compositeur, Karine a également interviewé le compositeur et elle a aussi transcrit la session de travail. Donc dans son rapport, on a aussi la transcription de ses réactions. Donc, ça, c'est peut-être pas nécessaire de faire systématiquement, mais c'est intéressant. Donc alors après la validation, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure pour En Écho, il y a encore une autre étape qui est le concert, parce que pour moi une pièce tant qu'elle n'a pas passé l'épreuve du feu, qu'est le concert, on ne peut pas dire on va la mettre au répertoire, ça reste quelque chose qui est en attente. Et le problème dans le modèle qu'on a en général, c'est qu'on a un concert, on n'a pas le temps pour faire le portage. On a fait pour. Et donc le concert, personne de l'IRCAM n'était présent, j'ai juste envoyé le patch par mail. La seule personne, c'était le compositeur qui était dans la salle, mais c'était vraiment fait par indépendamment de l'IRCAM. Donc c'était aussi l'enjeu au départ, c'était de faire quelque chose qui pourrait jouer. Et ça, c'est aussi un risque, parce qu'on ne sait pas non plus sur si le technicien qui va faire le concert a les compétences nécessaires. Bon, je me suis rendu compte qu'il savait ce que c'était qu'un patch max, qu'il pouvait jouer avec un patch max, mais on a été en interaction avant le concert, sur le média, tel programme, tel son, j'ai un petit clic, j'ai un problème. Donc, on a réussi à interagir et à résoudre les problèmes comme ça. Mais ça s'est fait sans notre intervention. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai mis très longtemps avant de savoir que le concert s'était bien passé. J'ai envoyé des mails au compositeur qui ne me répondait pas. Je crois que j'ai juste vu un article dans le New York Times qui parlait du concert. Donc j'ai su que le concert avait eu lieu, mais c'est un truc assez courant. C'est quand c'est pas nous qui jouons le concert, quand on envoie le patch, on ne sait pas si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé. En général, on sait quand ça s'est mal passé. Mais si ça s'est bien passé, on n'a pas de retour. Donc ça, c'est difficile aussi dans la question de préservation. C'est un vrai problème, parce que tant qu'on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne peut pas dire c'est exploitable. Donc visiblement, ça s'est bien passé. Après, bon, j'ai revu récemment Marc-André, qui m'a parlé du concert, et j'ai reçu même un enregistrement du concert, donc on peut écouter, je veux dire, il y a très très peu de temps, mais vraiment, ça fait, j'ai reçu hier, en fait. Donc on peut, enfin, est-ce que ça joue, non, ça fait tout.
Si on veut manger, il reste 45 secondes.
Ah oui. Parce que ça reprend à...
Non, c'est-à-dire que là où on mange, ils servent les offres possibles.
Bon, bah alors, attends.
De farine. C'est un temps encore beaucoup.
Bah, c'est-à-dire que si on écoute ça, ça dure au moins une demi-minute, quoi.
Oui, bon, enfin, ça peut durer 5 minutes.
Mais... Ah, on ne pourra plus manger.
Enfin, on peut avoir 5 minutes
encore. Bon, beaucoup plus. Non, mais là, je suis arrivé à peu près bout, mais c'est vrai que c'est pas mal, comme on a écouté au début. On va accélérer. Alors, on va accélérer. Sur l'alto, mais c'est peut-être le mixage aussi. Hein. Qui rappelle quand même un peu les choses qui étaient faites avec les SPX à l'époque, alors que bon, là, il n'y a plus du tout de SPX. Donc, bon, quand même, peut-être que l'intention et l'esprit de l'époque est retrouvé. Alors, pour conclure, très rapidement, bon, on pourrait dire beaucoup de choses pour conclure, mais il y a deux choses que je voulais dire. C'est, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de l'âme des machines. C'est vrai que quand on refait des sons de synthèse FM, qu'on rejoue sur un DX7, c'est une sorte de madeleine. On est replongé dans une époque, pour ceux qui ont connu cette époque-là, c'est vrai que ça rappelle, tout de suite, il y a un effet vraiment de madeleine hein, qui arrive, de Madeleine de Proust. Et ça rejoint la question de l'âme des machines dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, on va arriver à préserver des choses. Mais est-ce qu'on va arriver à préserver l'âme des machines, le côté daté de la synthèse FM? Bon, ça c'est une question, mais c'est un vrai effet. C'est-à-dire que dès qu'on fait des sons FM, dès qu'on écoute ces sons-là, on est replongé dans une certaine époque tout de suite. Donc ça, c'est une chose vraiment très importante. Et alors aussi, un exemple concret par rapport à cette idée de préserver l'âme des machines. Là, je travaille en ce moment sur un projet avec Michael Jarrel. Et ça, tu dois savoir aussi, Christophe. On a fait des tas de programmes pour émuler la PCM80. Il y a des programmes, il y a des logiciels, même Lexicon fait des logiciels, on trouve des choses. Et donc, il a des programmes sur sa machine, des plugins qui lui permettent de refaire les mêmes traitements. Et l'autre jour, on était en répétition, il a vu une PCM80, il l'a pris et il a commencé à passer ses sons dedans. Et en fait, parce que tout ce qu'on a pu faire, même pour préserver des traitements le mieux possible, ben, il ne retrouve pas l'âme des machines. Et quand il trouve une PCM80, et ben, il ne peut pas s'en empêcher, il faut qu'il joue avec, quoi. T'as dû vivre ça aussi, non?
Oui, puis c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que même si on fait une réponse impulsionnelle, on n'a qu'une image partielle d'un état de la machine. Donc on pourrait dire qu'il faudra en faire toute une librairie, qu'on puisse appeler de manière dynamique pour le rendre peut-être plus vivant. C'est complexe.
Mais donc, en fait, donc pour conclure, c'est pour dire avec l'histoire de Diamond, on a réussi à préserver une pièce, puis essayer de penser un petit peu, pas seulement dans le court terme qui est celui de faire un portage pour la pièce, mais aussi préserver des éléments pour le futur. Et peut-être aussi, justement, quand on écoute cet enregistrement-là, finalement, on retrouve des sons de synthèse FM, alors qu'il n'y a plus de synthèse FM. On retrouve des choses qui étaient faites avec la volonté d'utiliser des harmonizers de l'époque. Et on retrouve un peu la couleur, même si elle n'est plus là. Donc ça veut dire qu'on a peut-être réussi à préserver quelque chose de l'âme des machines sans les garder, mais c'est un processus assez difficile et lourd, et on voit les problèmes que ça pose sur une échelle de 20, 25, 30 ans. Et dans ce que tu disais au début, moi ça me faisait penser qu'on a les mêmes problèmes dans une échelle assez courte, parce que rejouer les traces, moi j'en ai fait quelques-unes, celle pour violoncelle par exemple, c'est vrai que c'est pas galère,
c'est costaud. Hein.
Et pourtant c'est beaucoup plus récent.
Est-ce qu'on pose des questions?